En grec ancien, troglodyte signifie pénétrer dans une caverne. Activez votre frontal, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission de Clic Clac Topette, le seul programme radiophonique qui explore et partage le patrimoine angevin sur les ondes du 101.5 FM de Radio G. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le village troglodytique de Rochemenier avec Pierre-Yves Douet, son maire, qui va nous emmener au cœur du musée et de ses évolutions à venir pour la saison touristique qui démarre déjà. Pour ces 20 minutes, nous serons comme toujours accompagnés par le billet indépendantiste de Calixte avec Ouest France et par les coups de cœur d'Alice Labrousse, journaliste à Angers ma ville. Sans oublier notre pause musicale de l'émission offerte par notre artiste favori, Julien Sfer. Et pour commencer, un petit coup de crayon, celui de Raph qui nous dessine aujourd'hui l'avenue Jeanne d'Arc à Angers.
Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une avenue plutôt spectaculaire, très longue et aussi silencieuse, apaisante, bref, une avenue surprenante. Une avenue qui prolonge le jardin du Mail, où des petits grands-pères et grands-mères aiment souvent se reposer sur les chaises en bois installées en quinconce. Cette avenue, c'est l'avenue Jeanne d'Arc à Angers, et je m'y installe pour en dessiner une partie. Bonjour, c'est Raphaël, je fais partie du groupe Urban Sketchers d'Angers. Notre but, dessiner, peindre la ville, notre ville, Angers. Le petit groupe de dessinateurs, peintres, amateurs se répartit dans l'avenue. Il y en a pour tous les goûts. Certains s'apprêtent à réaliser le croquis d'immeubles modernes, d'autres s'attardent sur les parties de prairies fleuries. D'autres s'installent au tout début de l'avenue, au milieu. La perspective y est dingue. Chacun pointe son stylo en l'air pour s'aider à dessiner les parallèles et trouver les points de fuite. Quant à moi, je m'installe face à une maison angevine typique de la région. En premier plan, je dessine les grandes grilles et portails blancs et les murs en pierre. Sur certains piliers sont apposés d'immenses vases blancs en terre cuite. À l'intérieur de ces pots, des palmiers. Avec le soleil, on se croirait dans le sud, dans une ville en bord de Méditerranée. En ce qui concerne la maison, je dessine le plus de détails possible. Les pierres en tuffeau, les persiennes fines et grises, les faïences colorées apposées autour des fenêtres. J'observe les toits en ardoise et les grandes cheminées en briques orange. Je trouve que ces maisons sont d'une beauté et ont, allez, j'ose le mot, une certaine puissance. Habiter ici au calme, en plein centre-ville, ça doit être un privilège. Ça me fait rêver. À bientôt pour de nouvelles aventures dessinées radiophoniques. Retrouvez d'autres aventures dessinées sur le podcast Le coup de crayon de Raph sur Radio G. Merci, Clic Clac Topette.
Lourès-Rochemenier, c'est une toute petite commune de 872 habitants dans le Saumurois qui a récemment fait l'objet d'une vidéo YouTube hein, qui a été, elle par contre, visionnée presque 2000 fois, donc beaucoup plus que le nombre d'habitants. Dans cette vidéo, nous suivons Monsieur le maire, Pierre-Yves Douet, qui nous fait découvrir le village de Rochemenier et son musée en nous présentant les projets d'aménagement, d'accueil du public dans le hameau. Pierre-Yves Douet est justement l'invité de Clic Clac Topette aujourd'hui, accompagné de deux conseillers municipaux de la commission patrimoine, donc Patricia Poirier, bonjour.
Bonjour.
Sébastien Goujot.
Bonjour.
Pour commencer, pourriez-vous expliquer aux auditeurs de Radio G comment est née cette idée de réaliser une vidéo ?
Bonjour à tous. Alors au fait, on a participé au projet LEADER, donc un projet de financement européen, de fonds européens, pour subventionner le développement des zones rurales. Et pour présenter au jury de façon dynamique, on s'est dit, bah voilà, tiens, si on faisait ces petites vidéos pour présenter donc les différents points que l'on souhaite travailler sur Rochemenier, présenter aussi plus largement Rochemenier aux futurs visiteurs.
Aux futurs visiteurs. Alors du coup, la vidéo, elle est un petit peu sous le format de à toute berzingue. Je crois que ça vous a inspiré, ouais, c'est ça.
On est parti de là, de l'idée, voilà, de partir sur comme à toute berzingue pour faire visiter la commune rapidement.
Donc l'idée à la base, c'était la vôtre. C'est vous qui avez posé ça sur la table?
Avec David Loriot, donc, qui est adjoint, et c'est son métier aussi de réaliser des vidéos. Et je lui en ai parlé, je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et puis, on est parti là-dessus sur l'idée.
Alors justement, dans la vidéo qu'on va partager sur la page Facebook de Clic-Clac-Topette, on découvre que Roche-Meunier possède un patrimoine remarquable avec son habitat troglodytique et que l'activité touristique est déjà présente, notamment, je pense, à l'hôtel Rocaminori, c'est ça qui veut dire Roche-Meunier ?
Tout à fait.
Comment est-ce que vous comptez faire pour renforcer l'attractivité des lieux ?
Sur le musée même, il y a à peu près 60 000 visiteurs par an, sauf évidemment en 2020 où c'est un petit peu moins.
Oui.
Mais sur le village, on estime qu'il y a à peu près 100 000 visiteurs qui viennent découvrir Roche-Meunier.
Chaque année ?
Chaque année, ouais. Oui. Donc entre les deux restaurants, le restaurant de Fouet aussi dans les Troglos, venir dormir aussi dans les Troglos, c'est passer un moment assez unique au village.
Il y avait par exemple, pour le musée précisément, je crois, un projet de scène pour accueillir du public ?
Oui. Donc l'idée, c'était de réaménager cette cour qui n'était pas très praticable, avec un accès aussi pour des personnes un peu âgées, qui n'est pas toujours simple, parce que c'est du falin par terre. Et puis aussi un accueil de groupe. Il y a beaucoup de groupes qui passent avec des groupes d'enfants, notamment des scolaires. Ouais. Voilà, donc c'était d'avoir aussi un espace qui puisse se servir pour cet accueil-là. Et puis aussi, l'idée, c'était de développer aussi des choses un petit peu plus en nocturne, donc d'avoir une petite scène avec, il y a déjà des soirées contes, mais d'avoir un espace un peu plus dédié pour ce genre d'animation.
Tout à l'heure, vous parliez de 60 000 visiteurs en 2019, on va prendre ces références-là, du coup, comme vous le dites dans la vidéo. Qu'est-ce qui fait le succès de Roche-Meunier, selon vous ?
Les troglodytes, déjà ouais. D'une part. Je pense que c'est un atout important. On a aussi la gastronomie, comme on le disait aussi tout à l'heure, parce que les fouets, c'est quand même une spécialité culinaire qu'on ne trouve pas partout. Et puis, on est quand même au milieu du Saumurois aussi, il ne faut pas l'oublier, avec beaucoup d'autres sites à visiter aussi aux alentours.
C'est vrai que c'est complémentaire avec le château de Brézé, qui est un château aussi troglodytique en partie. Hein, il y a une grande partie souterraine.
Ouais.
Ici, c'est une ferme, c'est une ancienne ferme, donc on est toujours sur du troglodytisme, mais qui présente aussi la partie plus vie commune,
oui.
avec rural, la ferme, ouais. les objets d'autrefois.
La vie telle qu'elle était, voilà. Il y a plusieurs...
Pas si loin que ça,
ouais.
Au final.
Hein. Oui, ouais. Ça s'est arrêté en 1960, je crois.
Ouais, c'est ça.
C'est pas si vieux
ouais.
que ça. Hein.
Non, ouais.
Pour 2021, vous vous placez comment avec la situation pandémique ? Vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste ?
Alors, je pense qu'on n'est pas... Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste du Covid pour pouvoir en parler.
Ouais.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première chose qui va redémarrer quand la crise sera terminée, ça sera le tourisme.
Ouais.
Et en particulier, le tourisme de proximité. Donc, dès qu'on va pouvoir ouvrir, on va rouvrir le musée et on va pouvoir attirer le maximum de visiteurs ici.
Ouais, c'est ce que vous expliquez dans la vidéo, c'est que de toute manière, ça va repartir. Donc, au moment où ça va repartir, il faut être prêt, en fait.
En plus, on est sur un site qui est en partie extérieur.
Oui.
Hein, y a des salles à visiter, mais aussi y a une grande partie en extérieur. Donc, ça permet quand même d'accueillir du public en respectant pas mal les conditions sanitaires, tous les protocoles.
Ouais. C'est une contrainte en moins, en fait, par rapport à la situation, du coup.
C'est ça.
Du coup, avant d'aller déguster une bonne fois ce Nutella, hein, comme vous nous le recommandez dans la vidéo, et pour conclure notre échange, quel serait le meilleur argument qui donnerait envie aux auditeurs de Clic-Clac-Topette et de Radio G de venir à Roche-Meunier dès que la saison va repartir ?
Déjà, s'ils sont à Angers, c'est qu'ils sont pas très loin de Roche-Meunier.
Ouais.
On est moins de 25 minutes, on prend la 4 voies, et on arrive...
Un samedi après-midi, un dimanche, et hop, c'est fait.
Et puis en plus, quand on arrive à Roche-Meunier, on peut y passer la journée facilement. Donc déjà avec l'application, on peut faire le tour dehors pour prendre un premier aperçu, des premières sensations. Ensuite, on peut venir visiter le musée, prendre du temps, visiter les salles, rentrer dans les troglos, découvrir le troglodytique de plaine. Et puis évidemment, après, on termine en allant manger dans un des restaurants de la commune.
En plus, ils proposent des choses très différentes. Donc c'est vrai qu'il y en a un qui est sur du traditionnel avec les fouets qui sont cuits sur place. Et puis l'autre qui est plus gastronomique.
Donc si je comprends bien, là, vous incitez les visiteurs, les touristes à venir ici 2 jours.
Oui, puisqu'il y a les hôtels et les gîtes.
Il y a tout ce qu'il faut.
Voilà.
C'est plus qu'une journée, en fait.
L'offre est complète.
Faut vraiment venir sur ce site qui est unique dans la région, parce qu'une ferme troglodytique comme ça, on en trouve qu'à l'Ourès-Roche-Meunier. Donc, faut vraiment venir. Il y a beaucoup de choses à découvrir. On a aussi développé le musée avec des nouvelles technologies, et ça permet aussi de voir la vie d'autrefois, comment elle était, avec des animations en 3D. Il y a beaucoup de choses sympas à faire dans différentes salles du musée. Donc, venez, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir.
Et merci beaucoup Pierre-Yves Douet, maire de l'Ourès-Roche-Meunier, Patricia Poirier et Sébastien Goujon, du coup, qui sont conseillers municipaux et à la commission patrimoine en particulier, de nous avoir présenté sur Radio G votre projet pour la belle saison touristique à venir. Ça, on n'en doute pas du tout.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Si l'amour et la beauté ne font qu'un, Alors je t'ai trouvé, face à moi se tient le plus bel être jamais créé. J'ai connu un tas de portraits, mais jamais d'aussi beau. Pourquoi celle-ci verrait en moi du Michel-Angelo? J'ai peut-être pas le corps d'un dieu, mais les abdos d'Hercule Poirot. Est-ce qu'elle me trouverait plus gracieux qu'une toile de Pablo? Devant elle, mes idées se confondent, je ne sais même plus parler. Elle relègue la Joconde au rang d'un dessin d'écolier. Je reste de marbre. Elle me regarde, Vénus s'attaque, c'est du playback. J'ai le regard qui joue à chercher son envie. Si je me braque, elle contre-attaque. Milo, je me résous à relever ce défi. Vénus s'attaque. Mon cœur, je l'ouvre, je me découvre. Si je lui prouve ce que j'éprouve, les bras m'en sont tombés lorsque je l'ai vu me fixer. Dites-moi tout ce dont elle raffole, faudra-t-elle m'épouser? J'imagine un champ de tournesol, une nuit étoilée. Je reste de marbre, inatteignable. Vénus attaque, c'est du playback. J'ai le regard qui joue à chercher son envie. Si je me braque, elle contre-attaque. Milo, je me résous à relever ce défi. Vénus s'attaque, c'est du playback. J'ai le regard qui joue à chercher son envie. Si je me braque, elle contre-attaque. Milo, je me résous à relever ce défi. Vénus s'attaque, Vénus s'attaque. Vénus attaque, c'est du playback. J'ai le regard qui...
Info, sortie, loisirs et bons plans sur l'agglomération angevine avec Angers ma ville sur Radio G. Dans l'édition du 10 mars d'Angers ma ville, nous apprenons que le Jardin de l'Avenir à Saint-James-sur-Loire, ce magasin bio qui propose de bons produits, a également ouvert un restaurant, et ça c'est une très bonne nouvelle.
Oui, cette semaine j'aimerais vous parler d'un restaurant qui vient d'ouvrir. Oui, bon, les restaurants en ce moment sont fermés, je sais, mais il y a encore des gens pour en ouvrir, et ça je trouve que ça donne de l'espoir. Donc je reprends. Je vais vous parler d'Aline Brielle et de son équipe qui ont ouvert un restaurant au sein même du Jardin de l'Avenir à Saint-James-sur-Loire. Petit rappel, le Jardin de l'Avenir, c'est un potager libre-cueillette, mais aussi une boutique de produits bio. Le restaurant s'appelle, lui, tout simplement, le Resto du Jardin, et leur concept est aussi foncièrement simple. C'est de faire passer les légumes et les fruits du potager à l'assiette, du circuit hyper court en somme, puisque le potager en question n'est qu'à quelques mètres derrière le restaurant. En ce moment, évidemment, leur salle n'accueille pas les clients, mais ils font à emporter sur commande ou à l'achat si vous passez au Jardin de l'Avenir. Toute leur démarche est à lire dans notre rubrique à table du 10 mars.
Non seulement on se fait plaisir, on mange bien, et en plus c'est bon pour la planète puisque ça évite le gaspillage alimentaire.
Oui, exactement. Une fois que la salle et la terrasse pourront ouvrir aux clients, le restaurant proposera un buffet au poids. C'est-à-dire que les gens mangeront et payeront le poids de la nourriture qu'ils ont choisie. Un concept qui responsabilise ses clients. Zéro gaspille en somme.
On va se faire plaisir et on attend avec impatience l'ouverture pour manger sur place. Retrouvez les infos sorties et bons plans sur les réseaux sociaux et sur angersmaville.com. Tout à l'heure, nous avons écouté la version acoustique de Vénus Attaque de Julien Sfer, un artiste local que vous pouvez justement retrouver dans le numéro d'Angers ma ville du 10 mars. Encore un peu de patience pour le billet indépendantiste de Monseigneur. Nous retrouvons d'abord notre série chronique de la Croix d'Anjou avec Thomas Chevalier. La dernière fois, nous avions vu comment la Sainte Relique était arrivée en Anjou, puis s'était installée dans l'imagerie de l'époque. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment la Croix d'Anjou est finalement devenue Croix de Lorraine.
Thomas ?
Eh bien, retour au XVe siècle. Avant de s'unir avec la célèbre Jeanne de Laval, René d'Anjou s'est d'abord marié à Isabelle de Lorraine. C'était évidemment un mariage politique, orchestré par la mère de René, qui souhaitait étendre l'influence du giron angevin à l'est de la France. Et petite précision d'ailleurs, au moment de leur mariage, René et Isabelle ont tous deux aux alentours de 11 ans. Autant dire que tout ça les dépasse. Bref, Isabelle étant la seule héritière du duché, lorsque son père Charles II meurt en janvier 1431, c'est logiquement son mari, René d'Anjou donc, qui devient souverain de Lorraine. Il y amène alors de nouvelles monnaies, frappées du symbole familial, des croix à double traverse qui rappellent évidemment la croix d'Anjou.
Et c'est donc par cette nouvelle monnaie que la croix d'Anjou devient croix de Lorraine.
Eh bien, pas tout à fait. Mais pour le comprendre, il faut d'abord replacer les événements dans leur contexte. Le XVe siècle, c'est celui de la fin de la guerre de Cent Ans. Alors, à l'époque, le royaume de France est évidemment très divisé, et de nombreux conflits éclatent entre provinces rivales. En 1474, le duché de Lorraine est légué à René II, petit-fils du roi René. Et un an plus tard, en 1475, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne qui revendique le territoire, lui déclare la guerre. Et l'avenir de la Lorraine se décidera lors de la bataille de Nancy en 1477. À ce moment-là, pour s'opposer aux Bourguignons qui arborent fièrement la croix de Saint-André, René II décide de faire coudre une croix à double traverse sur les vêtements de ses soldats. Elle est évidemment inspirée du symbole familial, la croix d'Anjou, représentée en noir, mais se distingue de celle-ci par la couleur que René II lui choisit, à savoir le blanc. À Nancy, donc, après de longs mois de siège, Charles le Téméraire meurt le 5 janvier 1477. Cette date devient dans la foulée la fête nationale de la Lorraine, et la croix à double traverse, symbole de la victoire, devient alors officiellement la croix de Lorraine.
Cette croix se retrouve même en Hongrie. Y aurait-il là encore un lien avec la croix d'Anjou ? Réponse dans deux semaines sur Clic Clac Topette. L'ensemble des podcasts de cette mini-série sur la croix d'Anjou est à retrouver sur radio-g.fr, rubrique Podcast Plus. Lui, vous pouvez le retrouver tous les week-ends dans Ouest France, le dimanche pour son Panthéon de l'Anjou et le samedi pour son billet indépendantiste. Monseigneur Denis Gremont, c'est à vous.
Si ma tante en avait, ou adieu vos vaches cochons couvés. Ne rechignant devant aucune démagogie, je crois opportun de mettre à profit la crise sanitaire historique que connaît actuellement le monde en général et la France en particulier, pour exposer devant vos yeux ébahis ce qu'un Anjou libre et indépendant eût pu apporter comme réponse à la kyrielle de problématiques posées par la Covid-19. Commençons par la vaccination. Il va de soi que, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'expliquer ici, ayant notre propre vaccin, il nous eût été facile non seulement de vacciner toute la population angevine, de la pouponnière à la maison de retraite, mais encore nous eussions pu, à l'instar du vaccin Spoutnik russe passé du purgatoire au statut de remède miracle, nous imposer au monde comme ultime recours. Disposant d'un système vaccinal d'une efficacité redoutable, nous eussions rouvert avant tout le monde nos cafés et nos restaurants. Et, dans la foulée, notre hôtellerie, idemment ouverte, eût accueilli la foule des touristes à la recherche depuis des mois d'une destination de vacances chaleureuse, nos discothèques, tout aussi rouvertes, recevant la jet-set du monde entier. Grâce à cette efficacité vaccinale, nous eussions proposé, dans nos théâtres et salles de spectacle, les concerts annulés partout ailleurs dans le monde. Lady Gaga, U2, Rihanna se fussent produits au stade Raymond Coppa, devant des publics frustrés de culture depuis des mois. Nos cinémas, ouverts en exclusivité mondiale, eussent organisé les premières, les plus glamour croulant sous les Daniel Craig et les Scarlett Johansson sur des tapis rouges interminables. Mieux, l'Anjou, volant au secours du CIO, eût pu, au pied levé, récupérer les Jeux Olympiques, compromis à Tokyo par un Japon défaillant. Puis, au déboté, organiser en lieu et place du Qatar la Coupe du Monde de football 2022. Riche à milliards, l'Anjou pouvait dès lors s'acheter, à grand renfort de corruption et de trafic d'influence, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU et, de là, imposer au monde qu'on nomme pelle à Bourrier une pelle à Bourrier. Oui, mais voilà, l'Anjou n'est pas indépendant. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées.
Retrouvez Clic-Clac-Topette sur Facebook et Instagram à Clic-Clac-Topette, mais aussi sur YouTube pour des balades historiques vidéo au cœur de l'Anjou, Segré, Beaufort-en-Vallée et Baugé. Si jamais vous souhaitez échanger vos connaissances de l'Anjou avec moi, vous pouvez me suivre sur Twitter à Pierre Benoît Radio G. À lundi, dans deux semaines, à 13h sur le 101.5 FM. Topette !